faut pas exagérer, tout est électrifié.
Oh.
Dis-moi, te souviens-tu si tu as passé ton enfance sur de la moquette, du parquet ou du lino ? Petit déterminisme social et domestique qui n'a rien d'anecdotique aux yeux de Pierre Bourdieu. Ainsi, ce matin, en ce 23 janvier, jour anniversaire de la mort de cet éminent sociologue, ce fut en 2002, nous avons décidé de poser sur la table de notre festin nu quelques réflexions bourdieusiennes, avec l'espoir sincère de t'offrir le désir, peut-être, de découvrir ou de relire les livres de Pierre Bourdieu. Voici l'impossible, comment essayer de résumer en 10 minutes l'œuvre de toute une vie, celle de ce type né à Pau en 1930. D'origine rurale et modeste, ce n'est pas peu dire, ce drôle de Lascar est devenu l'un des cadors au panthéon des intellectuels français, puisque Bourdieu appartient à ce magnifique cénacle du XXe siècle où siègent Michel Foucault, Gilles Deleuze et Roland Barthes. Ses travaux sociologiques nous ont démontré comment les individus, toi et moi, incorporent l'ordre social jusqu'à intérioriser inconsciemment les processus de domination comme quelque chose de naturel. Cela dit, son entreprise ne fut pas simple. Et d'ailleurs, Bourdieu définissait la sociologie comme un sport de combat. Certes, une lutte, mais contre qui ? Eh bien, découvrons la définition de la sociologie selon Pierre Bourdieu.
La sociologie est une manière de prolonger la philosophie par d'autres moyens. C'est-à-dire, finalement, si je voulais donner une généalogie glorieuse à la sociologie, je dirais que, au fond, le premier sociologue est Socrate. Alors là, les philosophes ont été tout à fait furieux parce qu'ils revendiquent ce père fondateur. Et en fait, c'est évidemment quelqu'un qui descendait dans la rue, posait des questions, qui allait demander à un général qu'est-ce que le courage, qui allait demander à Eutyphron, un homme pieux, ce que c'est que la piété, etc. Il faisait des enquêtes, dans une certaine mesure, d'une part, et d'autre part, pour évoquer ce que tu disais à l'instant, sur la lutte contre les représentations, etc. C'est quelqu'un qui se battait à longueur de temps contre l'équivalent de mes adversaires aujourd'hui, non pas de mes adversaires, de mes ennemis, ou en tout cas de ceux que je combats scientifiquement, c'est-à-dire les sophistes, des gens qui à la fois parle d'un irréel en faisant croire qu'il est réel, mettre le réel à distance par un nuage de mots qui impressionnent, etc. Ça, bon, à la fois les savants de l'apparence et les savants apparents.
Oui, les savants de l'apparence savent très bien dissimuler la connaissance derrière un vocabulaire compliqué, a priori inaccessible au plus grand nombre. Plus tu fais compliqué, plus tu parais intelligent. Mais en réalité, il s'agit tout simplement d'une confiscation du savoir et chacun dans sa vie a déjà subi l'humiliation d'une telle situation. Lors d'un dîner, un tantinet mondain, ou bien chez le médecin et ses diagnostics abscons, mais aussi derrière ton poste de radio, lorsque les sophistes squattent le micro pour travestir la réalité sociale.
Pour moi, par exemple, les gens qui produisent des sondages sont l'équivalent des sophistes aujourd'hui, c'est-à-dire des gens à qui on accorde de l'argent, des honneurs, des profits, les profits matériels, les profits symboliques, etc., pour produire un faux semblant sur le monde social, dont tout le monde sait au fond qu'il est faux, mais qui a pour lui une force extraordinaire qui tient à ce que les gens ne veulent pas savoir la vérité. Alors au fond, là j'en viens à la vraie réponse, parce que au fond je n'avais jamais répondu vraiment aux questions, c'est que le problème du sociologue, c'est qu'il essaie de dire des choses que personne ne veut savoir, et surtout pas ceux qui le lisent. Et du même coup, je pense à cet homme enfin, qui parfois me fait douter de mon existence en tant que sociologue, de la légitimité de mon existence en tant que sociologue, et de la fonction du travail scientifique. Je pense que, bon, est-ce qu'il est bon, enfin, de dire ce qu'il en est du monde social ? Bon. Est-ce que un monde social qui se connaîtrait lui-même serait vivable ? Voilà. Alors moi je pense que oui.
Oui, Pierre Bourdieu estime qu'un monde qui serait conscient des injustices et des faiblesses qui gangrènent son organisation sociale serait tout simplement possible, alors que ses adversaires redoutent qu'une telle lucidité conduise aussitôt à l'anarchie. Toujours est-il que cette ignorance des masses, savamment entretenue, amène Pierre Bourdieu à dresser un constat scientifique quelque peu effroyable. Écoute attentivement son diagnostic sur le déficit du capital culturel.
Je viens de lire récemment une enquête qui a été faite autour de 72, où on interrogeait les gens sur les facteurs de la réussite scolaire. On leur demandait, pensez-vous que la réussite des enfants dépend surtout de leur intelligence, de leur milieu familial, etc. Et il était frappant de voir que c'est dans les classes populaires, et en particulier chez les paysans, que l'ignorance du rôle du milieu familial dans la réussite scolaire des enfants est maximum. Autrement dit, ce sont les principales victimes, enfin, de l'inégalité de capital culturel qui en sont le moins conscients. C'est-à-dire que les gens qui sont privés de culture sont privés de la conscience de la privation. Ils ne savent pas que bon, si leur enfant ne réussit pas à l'école, ce n'est pas parce qu'il est plus bête. C'est très très important politiquement, je pense, et socialement. Ils pensent que si leur enfant ne réussit pas, c'est parce qu'il est plus bête, et non parce qu'il est issu d'un milieu qui ne transmet pas l'ensemble de savoirs, de connaissances, qui est la condition tacite de la réussite. Alors du même coup, cette inconscience, enfin, a une fonction politique tout à fait importante, dans la mesure où elle tend à laisser croire à la grande majorité des gens que les hiérarchies sociales fondées sur le système scolaire sont des hiérarchies justes.
Ainsi, la reproduction des hiérarchies sociales s'opère aisément et à perpétuité. On ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Et lorsqu'un môme des couches populaires, après un parcours du combattant, parvient à s'extirper de son milieu social, comme ce fut le cas pour Pierre Bourdieu, il doit s'estimer heureux, jusqu'à lui faire ressentir, pourquoi pas, une certaine culpabilité.
J'étais donc miraculé, et les miraculés, on leur demande de dire tous les jours merci du miracle. Bon, alors tout ça, ça a été extrêmement difficile pour moi. Et il est vrai que la sociologie, ça n'a rien à voir avec le ressentiment, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et je trouve que les gens qui ont le privilège d'être nés au bon endroit pourraient au moins fermer leur gueule quand ils aient ces choses-là. Bon, ça c'est la moindre des choses. Enfin, ils pourraient vraiment la pudeur de se taire. Bon, voilà.
Évidemment, les ennemis de la pensée bourdieusienne ont immédiatement conclu que l'esprit de Bourdieu fut avant tout animé par la vengeance et le ressentiment à l'égard de la bourgeoisie. Mais ils n'ont rien compris, car le malaise de Bourdieu était réel, et c'est par générosité qu'il a choisi de partager son expérience. Ceux qui n'ont pas cheminé de la sorte, autrement dit, s'extirper de sa classe sociale, ignorent que c'est essentiellement un manque de confiance en soi qui régit ensuite ton existence. Et d'ailleurs, Bourdieu lui-même n'a pas échappé à cette sanction, et jusqu'à la fin de sa vie.
Vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas comme un poisson dans l'eau, vous êtes plutôt mal à l'aise.
Oui. Par exemple, je suis de plus en plus timide, ça paraît bizarre. Au fond, j'étais moins timide quand j'étais en sixième, ou quand j'étais en terminale, je passais mes oraux, je passais pour brillant, etc. Je suis de plus en plus. Au point, par exemple, que très souvent, quand je dis ça, je ne devrais pas dire ce que je veux, mais quand je prends la parole en public, encore aujourd'hui, hein, dans des assemblées où je suis entouré d'égards, parfois même de respect, je suis paralysé par l'émotion. Et quand je demande à des amis intimes à qui je peux poser la question, je leur dis, mais oh, est-ce que j'ai pu être mauvais, mais qu'est-ce que les gens ont pu penser, etc. On me dit, mais on pense que vous faites exprès, parce que on peut pas croire que quelqu'un comme vous soit intimidé, donc on pense que c'est une sorte de... Et on vous est reconnaissant, parce qu'on pense que vous êtes gentil, quoi, vous voulez pas... On pense que je fais comme Fabius quand il parle au peuple, quoi, voilà. Hein? Alors ce qui m'énerve beaucoup, parce que j'ai vraiment, je sais pas quoi dire, je suis paralysé, je me sens pas légitime à prendre la parole, d'autant plus que le rôle dans lequel on me met est très grand.
Vois-tu, nous aussi, parfois, dans la cellule de dégrisement, nous nous sentons sincèrement illégitimes. Oui, parce que nous sommes tous en cavale, en fuite. Oh, ce n'est pas une fierté, crois-moi. C'est parfois même douloureux. Mais bien souvent, Pierre Bourdieu nous a rassurés, qu'il en soit infiniment remercié. Néanmoins, il n'est pas question d'en faire un messie, tout au contraire. Mais il s'agit tout simplement ce matin, en ce jour anniversaire de sa mort, d'essayer de diffuser un peu plus sa pensée, tant elle est salvatrice pour celles et ceux qui sont en transit social. Et à ce propos, tu trouveras sur notre site internet une liste non exhaustive des livres de Bourdieu comme une introduction à un autre monde. Et crois-moi, franchement, il y a du boulot.
Les ZEP, des zones d'éducation prioritaire. C'est des zones où l'éducation a la priorité, normalement. Eh ben non, ils nous l'ont grillé la priorité, sa mère. Moi, dans ma classe, il n'y avait que des derniers de la classe. Ils ont pris tous les derniers de toutes les autres écoles, ils les ont mis dans ma classe. Et à la fin de l'année, on était tous derniers, ex aequo. Voilà, ils nous prenaient pour des cons. Je me rappelle, le matin, ils nous faisaient écrire nos noms avec des cubes. Mais c'est normal qu'ils soient dans cet état-là. Ils sont déboussolés. C'est pas des imbéciles, les gosses de quartier. C'est pour ça qu'ils sont vénères. Parce que ils voient bien que l'ascenseur social, il est bloqué au sous-sol et qu'il pue la pisse.
Il ne m'a pas appris l'anglais. Il ne m'a pas appris l'allemand. Ni même le français correctement. Elle ne m'a pas parlé des livres, de l'histoire des idées. Pas de politique à suivre, pas de mouvement de pensée. Elle ne m'a rien montré de pratique, ni cuisine, ni couture. Faire monter une mayonnaise, monter une SARL, tenir un intérieur. Il ne connaissait pas grand-chose en mathématiques, ni équations de Schrödinger. Mais pour être honnête, on a veillé à ce que je perfectionne mon revers à deux mains. Je fléchisse bien sur mes jambes, mais ça n'est pas resté, ça n'est pas rentré. On m'a donné un modèle libéral, démocratique. On m'a donné un certain dégoût, disons, désintérêt de la religion. Mais il ne m'a pas dit à quoi servait le piano, ni le cinéma français qui pourtant le faisait vivre. Elle ne m'a pas dit comment ils s'étaient mariés, trompés, séparés, ni donné d'autres modèles à suivre. On m'a pas parlé de Marx, rival de Tocqueville, ni Weber, ennemi de Lukács. Mais on m'a dit qu'il fallait voter. Elle n'a pas caché l'existence, mais a tué celle de Rousseau, de Proust, de mort à crédit. Ils n'ont fait aucun commentaire sur mes 68, ni commentaire sur la société du spectacle. Mais ils savaient que Balzac était plié à la ligne, qu'on pouvait en tirer un certain mépris. Ils ne connaissaient pas d'histoire de résistance ou de Gestapo, mais quelques arnaques pour payer moins d'impôts. Ils se souvenaient en souriant de la carte du PC de leur père, mais peu de Gaulle, une blague sur Pétain. Rien sur Hitler. Ils avaient connu le monde sans télévision, mais n'en sait rien. Ils n'avaient pas voulu que je regarde Apocalypse Now, mais je pouvais lire Au cœur des ténèbres. Je ne l'ai pas lu. On m'a pas dit que c'était bien. On m'a pas dit comment faire avec les filles, comment faire avec l'argent, comment faire avec les morts. Il fallait trouver comment vivre avec demi-frère, demi-sœur, demi-mort, demi-compagne, maîtresse, zéro marié, alcoolique, pas français. Fils de gauche. Milite, fils de droite, hérite, profite. On ne m'a pas donné de coups, on m'a sans doute aimé beaucoup. Il n'y avait pas de choses à faire, à part peut-être polytechnicien. Il n'y avait pas de choses à ne pas faire, à part peut-être musicien. Elle m'a fait sentir que la drogue était trop dangereuse. Il m'a dit que la cigarette était trop chère. Elle m'a dit qu'une fois, elle avait été amoureuse. Elle ne m'a pas dit si ça avait été de mon père. Elle ne m'a pas dit comment faire quand on se sent seul. Il ne m'a pas dit qu'entre vieux amis, souvent, on s'engueule. On s'embrouille, que tout se brouille, se complique, qu'il faudrait faire sans. Elle ne m'a rien dit sur Freud et j'ignore Lacan. Pas de conseils ni de raisons pratiques, pas de sagesse des familles, pas d'histoire pour faire dormir les enfants, pas d'histoire pour faire rêver les grands. Il ne souffrait moins de la nouvelle vague et de ce qu'on voyait avant. Mais parlait du Louvre comme d'un truc intéressant. On disait rien sur Michel Sardou, mais on devait aimer Julien Clerc. On m'a parlé d'un concert. Sinon, je ne sais rien des pauvres. Je ne sais rien des restes d'aristocrates. Je ne sais rien des gauchistes. Je ne sais rien des nouveaux riches. On ne parlait pas de cathos, ni de juifs, ni d'arabes. Il n'y avait pas de chinois. Elle trouvait que les noirs sentaient, elle n'aimait pas les odeurs. Lui s'en foutait.
France Culture, c'est le capital culturel d'Arnaud, Florent, Didier, dédié à ses parents.
Vous êtes bien sûr qu'il n'a pas tué son père?
Oh, mais qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille?
Le complexe d'Édipe.
Complexe d'Édipe?
Qui, inclinant le fils vers la mère, l'incite à tuer son père.
C'est épouvantable.
Notre chapitre 2 s'ouvre par une curieuse citation que voici. Si l'Amérique était un donut, les États-Unis seraient le trou du donut. Ce sont ici les mots sarcastiques de Trey Parker et de Matt Stone, les deux créateurs de South Park, série d'animation géniale et déjantée, créé aux States en 1997, loin, très loin de l'univers aseptisé des studios Walt Disney. En France, autant les ados que les trentenaires dévorent ce dessin animé subversif diffusé aujourd'hui sur une chaîne de la TNT. Par ailleurs, sache que les quatre morveux de South Park nous font hurler de rire nous aussi, c'est pourquoi Mademoiselle Claire-Sophie Collet est allée rencontrer notre ami Olivier Joyard, journaliste aux Inrecuptibles et spécialiste des séries américaines. Ainsi, découvrons ces gamins qui ont réellement un pet au casque juste après le jingle de l'Altmedisch Attitude.
Hello.
Ach, yes, this is Altmedisch Attitude. J'adore, c'est la crise, mais c'est la mode. Et dans la cellule de Grisement, la tendance est comme un gilet fluorescent, c'est sans chichi. Et ça peut vous sauver la vie. Carl trouve ça wunderbar, j'adore.
Salut, bande de... La tendance cette semaine est au syndrome de Gilles de la Tourette, car on prend tous la route de South Park pour oublier toutes nos galères et rencontrer des gens bien vulgaires comme il faut. Et pour nous prouver que le politiquement incorrect est un label de qualité, c'est le journaliste Olivier Joyard qui s'est fait l'avocat des diables Stone et Parker.
La série est née dans l'imagination de deux glandeurs de première qui s'appelaient Trey Parker et Matt Stone. Et d'emblée, South Park se place sur un terreau encore plus sale gosse que les Simpsons, donc ils sont obligés de tenter autre chose et d'être peut-être plus arrogants, plus complexes sur certains aspects que les Simpsons.
Oh, crotte, je croyais avoir trouvé une idée originale. Plus à la fin, pourquoi chaque fois que je trouve un plan astucieux, les Simpsons l'ont déjà fait?
Et en même temps, ça reste une série basique, scatologique, avec des blagues de cul tout le temps. Voilà, donc c'est toujours ce mélange qui est intéressant dans South Park, et ça c'était présent dès le début.
Mais si le principe is so shocking, Stone et Parker ne font qu'amplifier l'absurdité du monde qui les entoure pour mieux le critiquer.
Disons, l'aspect provocateur de South Park, il est dans le pitch de départ, c'est-à-dire l'idée de la série. Et South Park, c'est l'Amérique du point de vue des enfants, des sales gosses, de ceux qui crient, qui hurlent.
On a plus l'école, fini pour aujourd'hui, on a plus l'école.
Mon cul, ça fait mal.
C'est bon, Cartman, tu peux arrêter de péter du feu.
Et qui en même temps a des thématiques très adultes, puisqu'on parle toujours de religion, de politique, de sexe, d'éducation. Enfin, tous les sujets, tous les grands sujets politiques et sociétaux de l'Amérique sont abordés dans South Park. Et ça, c'est vraiment une nouveauté.
Et maintenant, retournons Jésus et ses potes pour de judicieux conseils.
Oui.
Est-ce qu'on a le droit de tuer une personne qui veut qu'on la tue parce qu'elle est très vieille et qu'elle souffre?
Mon fils?
Oui.
Même pour 100 millions, je ne pourrais pas te répondre.
Et si les créateurs ont su fidéliser leurs spectateurs, c'est aussi par le choix de nouveaux moyens de diffusion, qui, la preuve, ne devraient pas faire si peur que ça.
Parker et Stone estiment qu'ils gagnent assez d'argent en faisant leur série chaque année.
Waouh ! Ils s'arrêtent jamais !
Quelle est cette nouvelle idée ?
J'ai l'impression de savoir.
Je suis à deux doigts de me pisser dessus.
Donc, on peut a priori aujourd'hui voir tous les épisodes de South Park gratuitement sur Internet sans avoir à les télécharger. Et finalement, ça reste complètement dans l'esprit de la série, dans leur défense de la liberté personnelle, qui est à mon avis vraiment leur fond à ces deux gars-là qui ont fait cette série.
Et si au bout de 12 ans, le temps de langage de la série a fini par être accepté, South Park n'a définitivement rien perdu de son aspect subversif.
On peut pas attendre de South Park qu'elle soit aussi fraîche aujourd'hui qu'il y a 13 ans, mais je pense qu'elle s'est quand même maintenue à un certain niveau et elle reste toujours importante dans l'imaginaire américain. South Park agit comme un défouloir universel, on peut dire. Et en même temps, peut-être une visée éducative au fond.
Maman, papa, je me fais des soucis à cause de l'image des jeunes femmes dans la société d'aujourd'hui. La superficialité et l'obscurité se voient exaltées alors que l'intellectualisme est mal considéré.
Bien, on fera ce qu'il faut pour arranger ça, ma chérie. Tu veux regarder le juste prix ?
C'est aussi une série qui est toujours restée, et ça la rapproche plutôt des Simpsons, dans la pop culture, c'est-à-dire que c'est toujours une série de commentaires sur le présent des États-Unis et du monde. Et South Park s'est donné cette mission, je pense, un peu plus que les autres.
Je viens d'acheter le kit vidéo de Stupid Pute Trop Gâté.
Stupid Pute Trop Gâté, kit vidéo.
On peut faire des vidéos et les diffuser sur Internet. Ouais!
Montre au monde entier quel salope tu es.
Kit vidéo Stupid Pute Trop Gâté contient une caméra vidéo, des filtres de vision nocturne, des faux billets, un portable jetable et 16 comprimés d'ecstasy.
Stupid Pute Trop Gâté, kit vidéo.
Altmedisch Attitude, c'est dans l'esprit de Karl, c'est la mode, c'est le monde, c'est tout, j'adore.
Bon, sans aucun doute, il faudrait que South Park soit immédiatement déclaré d'intérêt public, tout comme la créature de Fritz Lang d'ailleurs, voici M le Mauduit.
Notre maître d'armes étant aujourd'hui indisposé, c'est moi qui vous donnerai la leçon.
Il faudrait que l'histoire en tant que métier, se détachât du temps. C'est-à-dire que le temps, au lieu d'être un but, serait un moyen.
Ça vous emmerde ce que je raconte ?
Non.
Bon. Sinon, n'hésitez pas. Hein.
Bien. Après l'esprit moqueur de South Park, vous allez vous aussi, je crois, ce matin, Mauduit, charrier la terre.
Yo, Colin.
Wesh, gros.
Ouais, mais on n'est pas obligé de raquer pour un second fauteuil sur Air France Inter. Alors, Philippe, vous l'avez constaté, le grand débat sur l'identité nationale, sujet éminemment culturel, ne réussit pas à prendre de la hauteur. Il connaît surtout débat. assez révélateur d'ailleurs de l'identité profonde d'une partie de notre classe politique. Le débat frôle parfois de si près l'immonde qu'il ne peut même pas se vanter d'être terre à terre. Alors justement, ce matin, pour apporter ma pierre à la quête si nécessaire de l'identité nationale, et en période de crise économique et sociale, c'est important ça, eh bien, je vous emmène sous terre. Les éditions Gallimard, en collaboration avec l'INRAP, l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, publient « L'Europe, un continent redécouvert par l'archéologie », un bouquin dirigé par Jean-Paul Demoule, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne. Alors Philippe, je vous le dis tout de suite, ce bouquin est magnifique. Regardez, c'est sublime. C'est surtout super avantageux, hein, parce que d'un coup, vous avez la synthèse des recherches archéologiques à l'échelle de l'Europe, tant pour les découvertes que pour les réflexions autour de cette discipline qui ne s'intéresse plus seulement aux trésors des puissants, mais qui grappille tous les indices laissés par les hommes du passé, depuis les fils des âges farouches jusqu'à... hier, quoi. Voilà. Alors, pour la forme, hein, le livre dégouline d'illustrations, au moins une par page. C'est splendide, le tout est très bien fichu, intelligent, accessible, c'est parfait. Mais ce qui est vraiment intéressant, Philippe, avec ce bouquin, c'est la démarche adoptée, qui dépasse une vision trop souvent nationale de l'archéologie, que l'instrumentalisation du passé a transformé en outil de construction des nationalismes. Et vous vous souvenez, hein, nos ancêtres, les Gaulois, et je vous parle même pas des délires fascistes avec Francisque. Eh bien, cette Europe, un continent redécouvert par l'archéologie, a bien compris qu'il faut dépasser le cadre national pour mieux saisir des phénomènes de grande ampleur. Les auteurs sont des chercheurs venus de 9 pays européens, 13 archéologues qui apportent leur contribution dans des chapitres au titre toujours titillant pour le présent. Par exemple, les grandes migrations depuis les Germains jusqu'à l'an 1000. Hey, big up hein, pour le grand débat de l'identité nationale. Ou encore Byzance et l'Empire Ottoman, deux empires entre l'Europe orientale et l'Asie. Voilà, big up pour la Turquie. Et enfin, avec ce bouquin, on perçoit nettement l'importance du boulot de l'INRAP, je vous rappelle, l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives. C'est un organisme créé en 2002 qui s'occupe chaque année de 2500 chantiers de fouilles sur lesquels se démènent 2000 archéologues. Bon, en gros, hein, l'INRAP est chargé de détecter le patrimoine archéologique et de le fouiller avant qu'il ne soit détruit par les travaux d'aménagement du territoire. Bah ouais, Philippe, avec une tractopelle, on voit pas tout de suite que le gros tas de cailloux, là, c'était un tumulus. Mais surtout, pour ma part, je n'ai pas une confiance absolue dans le BTP, hein, quand le DAB a la trouille de prendre du retard sur son chantier et que, vas-y, les vieux boudots, là, et les bouts de pot de fleurs, tu les fous à la benne, hein, j'ai les fondations à finir, moi. Eh oui, c'est le danger, ça, Philippe. Sauf que, voilà, depuis quelques mois, ça grogne sévère à l'INRAP, où l'on considère que le service public de l'archéologie est en danger. Eh, rien de moins. Alors, je ne vais pas vous faire ici la liste des revendications des agents de l'INRAP. Hein, il n'y a qu'à aller voir sur le site internet « Sauvons l'archéologie ». Mais je peux vous assurer, Philippe, qu'il y a de l'inquiétude dans l'air. Délocalisation forcée, pression à l'efficacité, ce qui ne convient pas bien avec les pratiques d'une discipline ultra nécessaire pourtant pour mieux comprendre d'où nous venons. Bref, Philippe, à l'INRAP, ils demandent simplement et avec raison qu'on ne leur casse pas les fouilles.
Eh bien merci Mauduit, et si c'est une coquille dans votre texte, elle les protégera. Nation business, a modern piece of glass work. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk on eyes with suspicion. The whole of motor corporations giving its permission. Directions, a thousand little Julias, they come together in the middle of Manhattan.
White whiskey, c'est le sublime breuvage de Vampire Weekend. Bien loin du vampire qu'a rencontré Eddie Mitchell.
Lorsque j'ai fait mon service militaire, je suis tombé dans une chambre où il y avait un type qui était vraiment énorme. Et il était tueur à la Villette. Et le drame pour lui, c'est que tous les matins, il buvait un demi, ce qui s'appelle un demi vraiment, tel qu'on vous le sert dans un café, un demi de sang frais. de veau ou de cochon, peu importe. Évidemment, le café au lait à côté, après, surtout celui de l'armée, c'était vraiment pas l'eau. Il a dépéri vraiment à vue d'œil. Mais c'est vrai, il a été très malade. Donc c'est un vampire en puissance.
Notre chapitre 3 s'intitule « Une dégustation de soupe au Tchekhov ». Vois-tu, le 29 janvier 1860, il y a 150 ans, naissait l'une des plus grandes gloires de la littérature russe, Anton Tchekhov. Mais tout comme Louis-Ferdinand Céline, l'auteur de La Mouette fut avant tout médecin, extrêmement sensible à la misère d'autrui. D'ailleurs, en 1893, il publia un formidable témoignage sur les conditions de vie sanitaire des bagnards, intitulé « L'île de Sakhaline ». Alors ce matin, Mademoiselle Flora Bernard a convoqué Monsieur André Mauroy, un académicien français, il fallait bien ça, afin qu'il nous parle de l'importance de la médecine sous la plume du dramaturge Tchekhov. Ainsi, découvrons cette littérature russe au scalpel, immédiatement après la virgule.
Voici mon théâtre.
Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit?
Est-ce que vous aimez le fromage en tube? Est-ce que vous lisez beaucoup? La poésie, ça vous intéresse?
Le 30 novembre 1959, le docteur Tchekhov est perdu dans la steppe du temps. Alors il ouvre sa mallette, sort un stéthoscope, l'ajuste à ses oreilles, puis pose l'extrémité sur le tronc tordu d'un vieil arbre chenu, et voici ce qu'il entend.
On ne dira jamais assez le rôle qu'a joué la médecine dans la vie de Tchekhov. Elle lui a appris le respect des faits. Il a toujours eu un grand mépris pour l'écrivain incapable de penser scientifiquement, c'est-à-dire en voyant ce qui est et non pas ce qu'il souhaite ou ce qu'il craint. Grâce à la médecine, il a pu voir les hommes dans des moments de crise et d'horreur. La maladie et la misère sont des sérums de vérité. À Tchekhov, l'homme apparaît comme une créature souffrante et souvent proche de la bête. Il a observé le moujik au ventre ouvert par un coup de fourche, la femme qui a ébouillanté l'enfant d'une rivale détestée. Il note, quand on vit chez soi, dans le calme, la vie semble très ordinaire. Mais il suffit d'aller dans la rue et de questionner les femmes, par exemple, pour voir que la vie est terrible. Il pensait qu'un écrivain doit peindre et non juger. Lorsque je décris des voleurs de chevaux, il y a des gens qui soutiennent que je voudrais dire aussi qu'il est mal de voler des chevaux. Mais cela, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire des tribunaux. Quand il publia les paysans, il causa dans la presse une grande alarme. On ne savait plus que dire. Fallait-il louer ou blâmer? Il peignait des paysans antipathiques alors que la mode était de peindre des paysans sympathiques. Tchekhov disait simplement, c'est ainsi. Ce c'est ainsi brûlait les cœurs et blessa l'intelligentsia. On ne pouvait pas aimer des gens qui n'étaient pas sympathiques. Mais les moujiks ne demandent pas de l'amour, répondait Tchekhov. Ils demandent du pain, du travail et de la terre.
Anton Tchekhov embrasse le vieil arbre qui le lui rend bien.
Surtout, il faisait de lui-même un homme. Il faudrait, dit-il, écrire une histoire pour montrer comment un jeune homme, petit-fils d'un serf, qui a servi dans une boutique, chanté dans un chœur de province, qui a été élevé à embrasser la main des prêtres, à être reconnaissant pour un morceau de pain, qui a été fouetté, qui a aimé dîner chez ses parents riches, qui a été hypocrite devant Dieu et devant les hommes, il faudrait écrire comment ce jeune homme expulse l'esclave de lui-même, le presse au dehors goutte à goutte, et comment, s'éveillant un beau matin, il sent qu'il n'a plus de sang d'esclave dans ses veines, mais seulement le sang d'un homme véritable.
Alors, certes, à l'Est, il y avait à l'aube du XXe siècle ce médecin dramaturge russe, Anton Tchekhov. Mais c'est vers l'Ouest que voulait voyager quelques décennies plus tard le poète surréaliste français Philippe Soupeau. West We Go fut publié en 1922 avant que Philippe Soupeau ne s'installe finalement au Sud, puisqu'il fut le patron de Radio Tunis entre 1937 et 1940, date de son arrestation par les provichistes. Allez, perdons le Nord, puisqu'il est l'heure de notre pourrissement des belles choses.
Mmh. Philippe Soupeau.
Ça, c'est de la soupe aux choux.
West Wigo.
De la vraie, faite avec mes choux à moi.
Étrange voyageur. Voyageur sans bagage. Je n'ai jamais quitté Paris.
Pourquoi n'essaies-tu pas quelque chose de passionnant pour changer? Fais-toi explorateur, chasseur de fauves.
Ma mémoire ne me quittait pas d'une semelle.
Qu'est-ce que vous avez à me suivre?
Ma mémoire me suivait comme un petit chien.
Moi aussi, j'avais un chien comme ça quand j'étais gosse. Est-ce que ça te plaît lorsqu'il s'agrippe à ta jambe et qu'il se frotte d'eau en bas?
J'étais plus bête que les brebis qui brillent dans le ciel à minuit.
Alors là, mes yeux, ça va être dantesque. On va leur peindre leur ciel.
Il fait très chaud. Je me dis tout bas et très sérieusement, j'ai très soif.
Apporte-nous du scotch et des olives.
J'ai vraiment très soif.
Monsieur a besoin de fortifiants.
Je n'ai que mon chapeau.
Le produit de ce travail peut être aisément ramené à deux concepts fondamentaux. Un, les gens ne portent pas assez de chapeaux. Deux, la matière est de l'énergie. Et dans l'univers, il y a beaucoup de champs d'énergie que nous n'arrivons pas à percevoir.
Clé des champs, clé des songes, air des souvenirs. Est-ce que j'ai jamais quitté Paris?
Je crois que je vais crever si je continue à vivre dans cette putain de ville.
Tu pourris sur place. Ce qu'il te faut, c'est de l'iode, du phosphore.
Mais ce soir, je suis dans cette ville. Derrière chaque arbre des avenues, un souvenir guette mon passage.
À 20 points, un quartier à la con, c'est un quartier à la con.
C'est toi, mon vieux Paris. Mais ce soir, enfin, je suis dans cette ville. Tes monuments sont les bornes kilométriques de ma fatigue.
Pas la peine de foncer, on est dans les temps.
Je reconnais tes nuages qui s'accrochent aux cheminées pour me dire adieu ou bonjour.
Service à programme, bonjour.
Oui, il paraît que le virus H1N1 voyage à une vitesse incroyable.
Oui. Allez ouvrir, je crois que c'est lui.
Ah, déjà? Merde.
La nuit, tu es phosphorescent. Je t'aime comme on aime un éléphant. Tous tes cris sont pour moi des cris de tendresse. Je suis comme Aladdin dans le jardin où la lampe magique était allumée. Je ne cherche rien. Je suis ici.
Je ne comprends rien. Alors, rien du tout. Je vais vous expliquer, le Claude.
Je suis assis à la terrasse d'un café et je souris de toutes mes dents en pensant à tous mes fameux voyages.
J'ai des envies de voyage.
Je voulais aller à New York ou à Buenos Aires, connaître la neige de Moscou, partir un soir à bord d'un paquebot pour Madagascar ou Shanghai, remonter le Mississippi.
L'Océanie, bord à bord à Léveiné, tu connais?
Pourquoi? Tu veux m'emmener?
Ramène pas des saucisses quand on va à Francfort.
Je suis allé à Barbizon.
T'as vu un hérisson sur la route ou quoi?
Et j'ai relu les voyages du capitaine Cook.
Je suis fier, vraiment fier de toi.
Je me suis couché sur la mousse élastique.
Tiens, tu peux te rendre utile aussi.
J'ai écrit des poèmes près d'une anémone Sylvie, en cueillant les mots qui pendaient aux branches. Le petit chemin de fer me faisait penser aux transcanadiens. Et ce soir, je souris, parce que je suis ici.
Eh bien, ça tombe extrêmement bien, puisque c'est exactement ce que nous vous proposons ici, dans le village de vacances, Jean-Christian. En réservant dès maintenant ici des KGB dans les bâtiments administratifs ou bien alors dans les bureaux climatisés du secteur A, de la place encore dans notre réplique de sous-préfecture, superbe, du bungalow disponible aussi dans notre reconstitution de siège social d'établissement bancaire, on me dit aussi encore de la place au parking solarium avec accès direct au sud-est de la trésorerie principale, sans oublier les 900 lits totalement libres au centre de documentation sous notre bulle tropicale. Donc, maintenant, on va pas se mentir, de la place, il y en a, il y a même que ça. C'est quelque chose de monumental. C'est ce qu'on appelle de la disponibilité maximum. Donc maintenant, les garçons, je vais être plus clair, m'a demandé la suivante. Au secours.
Eh merde !
Eh oui. Parfois, il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour entreprendre un long voyage. Mais qu'il est bon néanmoins, tel Kerouac, de s'élancer sur la route. Tu la prends? Qu'est-ce que ça coûte?
Il y a une route. Tu la prends? Qu'est-ce que ça coûte? Il y a une route. Il y a même un chien qui court la tête entre les mains. Il y a une route. Il y a pendant des années des gens qui ont vécu le dos tourné sur une route abandonnée avec des marronniers sauvages qui jettent le fric plein le paysage. Il y d'une route comme une blessure, on verra l'os de ton visage. Avec des champignons qui poussent, qui font la neige et la mousse. Y a une route qui coupe la brousse. Y a une route emplie d'oiseaux sur une malade qui regarde vers l'équateur. D'où vient la fumée qui fait peur? D'où vient la fumée qui fait peur? Y a une route.
Il y a une route. Ce fut en 1974, le sublime chemin de Gérard Manset, bien loin des sentiers battus.
Alors, vous avez trouvé le chemin?
Oui, minute, on fait le point.
Tu mens, tu sais absolument pas où on est complètement perdus, on va tous mourir ici, on va tous mourir gelés, et tu seras content.
Calme-toi.
Notre ultime chapitre s'ouvre dans une geôle ensoleillée de Beverly Hills. Car figure-toi que jeudi dernier, comparaissaient devant un tribunal de Los Angeles quatre cambrioleurs présumés accusés d'avoir braqué une dizaine de baraques depuis décembre 2008. Petit détail croustillant, toutes ces bicoques n'appartiennent qu'à des célébrités telles Paris Hilton ou l'acteur Orlando Bloom. Le butin est estimé à 3 millions de dollars, mais ce n'est pas simplement pour récupérer un peu d'oseille que mademoiselle Elsa Denac, alias Lettrine Propanol, n'a pu s'empêcher d'écrire au chef de ce drôle de gang. Alors sans plus attendre, découvrons ses motivations épistolaires, et puis c'est tout.
Une lettre en principe n'est en vérité valable que pendant la minute où elle a été écrite.
Dans une villa de la côte ouest du Nord, à la minute où l'alarme qui dit que les œufs sont cuits sonne. Cher gentleman cambrioleur, comme toutes les détentrices d'œstrogènes, je suis impressionnée par les loubards. 3 millions de dollars en un an de chasse? Pas mal, vous avez l'air doué. Venons-en donc au tabouret de ma lettre. En France, il y a aussi de quoi faire pour le marlou que vous êtes. Nous, monsieur, on a des valeurs sûres. Des personnages installés depuis longtemps dans leur trône en marbre qui gèle le cul, mais qui en jette. Je veux bien te donner des plans, histoire que ça ne soit plus qu'un jeu d'enfant pour toi. En échange, je voudrais juste un petit pourcentage, histoire de voir venir l'horizon. Considérant ton silence comme une approbation, je t'énonce mes connaissances. Chez Mireille Mathieu, tu trouveras un petit chanteur à la croix de bois empaillée. Chez Christian Clavier, fouille dans le cheval qui a la Légion d'honneur, tu y dénicheras le César qu'il n'a pas eu. Chez son voisin de péniche, Jean-Michel Jarre, il doit y avoir de bonnes ondes à choper et une poupée vaudou à l'effigie d'Isabelle Adjani, sculptée dans une défense de koala. Tu n'iras pas chez Johnny, faut le laisser se reposer. Chez Jean d'Ormesson, il faut attendre un peu, il n'est pas encore assez mûr. Chez Laura Fabian, il faut attendre un peu, on n'est pas encore assez mûr. Voilà, je connais plein d'autres secrets, mais je préférerais te les dire de vive voix. Sache que si tu es en cavale, de l'autre côté de l'océan, je pourrais t'héberger dans mon appartement en osier. Je t'embrasse. Lettrine Propanol.
Oui, bon ben voilà, notre fantomette aime les gros bras. Enfin bon, quoi qu'il en soit, mesdames, messieurs, pomme cul ou clic droit, à votre choix, mais veuillez accueillir dès à présent Henri Markel, notre machine à souk en direct de Babel Web.
On navigue sur le web.
Henri Markel, bonjour.
Bonjour Philippe Collin, bonjour à tous.
Alors, quoi de neuf à Babel Web, vieille carlingue?
Cher Philippe, mon jet puparmente, aujourd'hui je vous présente Franck Lepage, un animateur, citoyen, militant.
Je milite, tu t'ilites, il s'ilite.
Vous m'irritez, Philippe. Franck Lepage a créé une coopérative d'éducation populaire. Il raconte aussi sur scène une contre-histoire de la culture en France depuis 1945.
Entre ici, entre Malraux.
Justement, Philippe, saviez-vous qu'il y avait sous De Gaulle un ministère de l'éducation populaire?
Et qu'est-il devenu?
Il n'a pas duré longtemps. Il a été mangé par le ministère des Sports. Et c'est pour ça qu'on dit le ministère de la jeunesse et des sports maintenant. Et pour donner quelque chose à Malraux, qui piaffait auprès de De Gaulle, on lui a créé le ministère de la culture. Voilà, c'est Franck Lepage qui raconte tout ça sur scène. Il s'intéresse aussi à la société de consommation et à ses dérives. Tiens, par exemple, l'eau.
L'eau du robinet ou l'eau en bouteille?
Ben justement, que choisir, Franck Lepage?
Les fumiers qui nous font croire qu'il faut boire de l'eau minérale en bouteille plutôt que de l'eau du robinet. Mesdames, messieurs, l'eau du robinet est une eau potable, selon la définition juridique française. Une eau potable est une eau qui peut être bue toute la vie sans aucun danger pour la santé. L'eau potable en France subit exactement 60 contrôles. 60 contrôles avant d'arriver dans votre verre. Pourtant, nous sommes un certain nombre à pleurnicher qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas ci, qu'elle n'est pas ça, et à acheter ça. L'eau potable coûte très exactement 300 fois moins cher qu'une bouteille, hein. Un litre d'eau potable, c'est un tiers de centime. 0,35 centimes. Regardez vos factures. C'est ça, ça coûte 300 fois plus cher. Très exactement. 6 milliards de litres environ chaque année sont vendus. Vous avez déjà vu une usine d'eau minérale? J'en ai visité une au Liban. C'est pas une usine d'eau du tout, c'est une usine de plastique. Vous avez d'énormes sacs de poudre, de polyvinyle, de chlorure qui arrivent, et puis des bidons de solvant terrifiants. D'accord? Et puis on va patouiller, mélanger. Ça va faire une espèce de pâte à prise rapide. On va balancer ça dans des canalisations. Et puis ça va arriver dans un moule en forme de bouteille. Et là, il y a une surpression qui va envoyer le plastique sur les parois. Et là, in fine, vous avez une source qui va refroidir tout le processus. Comme ça. Les fabricants affirment qu'il n'y a aucun danger pour la santé. Les pharmaciens conseillent de donner quand même de l'eau en bouteille de verre aux nourrissons. Et les chicaneurs considèrent que le foie fixe mal les fibres de polyvinyle de chlorure. Par année, notre consommation génère 240 000 tonnes de déchets plastiques en France qu'il faut brûler dans l'atmosphère. Alors moi, je vous fais une proposition à tous ceux qui boivent de l'eau comme ça. Soyez sympas. Quand vous aurez fini votre bouteille, ce soir ou ce week-end, fermez toutes les fenêtres et brûlez-la chez vous.
Voilà, vous avez compris le message, Philippe?
Mais ça fait réfléchir, comme dirait mon psyché.
Voilà, c'est Franck Lepage, à retrouver sur notre site.
Merci beaucoup, Henri Markel. Alors aujourd'hui, l'émission, c'était comment?
Commencer par Bourdieu et finir par Lepage, on est à la limite de la subversion.
Vous croyez?
Oui. Ah, mais j'ai une idée. Pour rétablir l'équilibre, je vous propose un dicton, une sorte de proverbe pour égayer notre journée.
Nous vous écoutons.
Donner, c'est donner, repeindre, c'est voler.
Merci, Henri Markel, pour cette mise à niveau. À la semaine prochaine. Oui. Et voilà, nous sommes au bout de ce 21e voyage dans le cosmos culturel et la cellule de dégrisement referme ses portes jusqu'à la semaine prochaine, bien sûr, n'est-ce pas, Mauduit?
Oui, mais nous serons là dès demain matin à 11h et en direct pour les nouvelles aventures de la panique au Mangin Palace.
Oui, et nous vous attendons nombreux et joyeux. En attendant, je voudrais remercier toute l'équipe de la cellule de dégrisement et en premier lieu, merci à Henri-Marc Mutel, fidèle aux manettes, assisté aujourd'hui à la technique de Michel Thomas, merci à lui. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct au comptoir de notre beau Barnum Burlesque. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Salut et fraternité, citoyens. Ciao.
Et en plus, la maison, cette année, a fait un très très gros effort, tant au